le soleil accouche de l'une au bar, que les étoiles dansent une sorte de fringe cancan. Moi je distribue aux gens des yeux aux peurs noires, et mon cerveau navigue dans ce vase transparent.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard infâme, mais je jure devant Dieu comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous allons encore parler dans notre émission d'aujourd'hui de la Kanaky, où plus d'un mois après la révolte kanak du 15 mai 2024, provoquée par le vote de la modification du code électoral, la répression coloniale s'est abattue à nouveau sur les indépendantistes. Non seulement Macron, ignorant tout de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, a provoqué par ses décisions absurdes un chaos dans le pays, mais il a déployé à nouveau, comme cela s'était fait en 1988, l'arsenal policier et militaire colonial. Les partis indépendantistes ont appelé au calme, espérant pouvoir rétablir un jour dans le pays, selon le souhait de Jean-Marie Djibaou, une communauté de destin avec les différentes populations présentes sur le territoire. Mais fin juin 2024, les provocations de Macron continuent. Il a non seulement commandé l'arrestation de membres des partis indépendantistes, mais il a pris la décision de déporter ses prisonniers kanaks dans une prison française située à 17 000 km de Kanaky. Cette disposition répressive ne peut qu'envenimer la situation sur le terrain. C'est dans ce climat dramatique que les Calédoniens s'apprêtent à affronter la campagne express des élections législatives, décidée en dépit de toute logique par un Macron vengeur qui n'a pas supporté ses échecs aux élections européennes. L'Union pacifiste a toujours affirmé son anticolonialisme, mais ne s'est jamais intéressée à des élections. Mais dans le contexte délétère provoqué par Macron, je pense qu'il est intéressant d'entendre une candidate des indépendantistes qui se présente pour affirmer le besoin de décolonisation réclamé par les Kanaks, depuis des dizaines d'années. Cette candidate s'appelle Omaira Neslin. Elle est rattachée à la famille du grand chef de marée Nidoish Neslin. Il faut rappeler que Nidoish Neslin, qui avait fait ses études à la Sorbonne en 1968, a été un pionnier de la lutte pour l'indépendance du peuple kanak. Il faut rappeler aussi qu'une fois emprisonné à Nouméa par la justice coloniale, c'est l'avocat Jean-Jacques de Félis, qui était aussi l'avocat de l'Union pacifiste, qui est allé, avec l'autorisation du général de Gaulle à Nouméa, pour défendre Nidoish Neslin et obtenir sa libération. Omaira Neslin est présidente de la Commission des infrastructures publiques, de l'aménagement du territoire, du développement durable, de l'énergie, des transports et de la communication du Congrès de Nouvelle-Calédonie et elle est candidate sous l'étiquette indépendantiste. Elle a été interrogée le 21 juin 2024 sur la radio Rythme Bleu par une journaliste de cette radio qui se définit comme la fréquence aux couleurs de la France. En Nouvelle-Calédonie. Je pense que cet entretien illustre le climat tendu que Macron a créé en Kanaky, mais aussi la volonté des Kanaks de ne jamais perdre leur objectif de réussir la décolonisation du pays. Nous écoutons donc cette interview de Maïra Neslin.
Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. À Transparence, spéciale élection législative, dont l'invité ce midi est Omaira Neslin, candidate aux législatives dans la première circonscription qui regroupe, rappelons-le, Nouméa et les îles Loyauté. Omaira Neslin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes élue de la province des îles et du Congrès. Vous vous présentez sous l'étiquette indépendantiste et nationaliste avec pour suppléante Laurie Oumouni du RDO. Alors comment s'est décidée votre candidature? Pourquoi est-ce que c'est vous qui avez été choisie?
Avant tout, voilà, je tenais à saluer tout le pays. Merci à RRB pour l'invitation. Et rappeler encore tout notre soutien aussi à toutes les personnes endeuillées et tous ceux et celles qui traversent aussi durement les événements qui sont passés depuis le 13 mai. Alors, cette candidature que je porte pour la première circonscription avec mon collègue Emmanuel Chibaou dans la deuxième circonscription, nos deux suppléantes Laurie Oumouni ainsi qu'Amandine Darras, ces candidatures-là ont été portées par la mouvance indépendantiste et nationaliste.
Et ce n'est pas une candidature du FLNKS parce que le FLNKS en tant que tel n'a pas présenté de candidat pour ces législatives. Comment ça se fait?
Alors, comme vous le dites, vous le savez très bien, on devait avoir un congrès. Le congrès du Front devait se tenir samedi dernier à Netshaot. Donc, ce congrès ne s'est pas tenu. Néanmoins, il y a eu des discussions en amont de ce congrès pour pouvoir acter des positions avec des possibles candidatures, sachant bien que l'Union calédonienne, par la voix de son président, avait déjà communiqué par voie de presse de s'engager dans ces législatives, le RDO également aussi, et l'ensemble des partis indépendantistes et de la mouvance indépendantiste et nationaliste devaient apporter leur position au Congrès. Néanmoins, ce Congrès n'a pas pu se tenir, et étant donné aussi qu'il y a eu le délai aussi imparti, hein, puisque personne ne pensait que le président Macron allait dissoudre l'Assemblée nationale.
Ah, ça a surpris tout le monde.
Oui, ça a surpris tout le monde. Donc, nous, premièrement, hein, et il y a 3 semaines de ça, donc effectivement, tout quand l'Assemblée nationale a été dissoute, il fallait que l'ensemble des partis, donc le Front ainsi que la mouvance nationaliste, devait se positionner. Ce qui n'a pas pu se faire, et l'Union calédonienne et l'Union calédonienne et le RDO et quelques représentants de la mouvance nationaliste ont décidé d'aller aux législatives. Et effectivement, ça s'est décidé dans un délai très très court, étant donné que il y avait ce congrès qui ne s'est pas tenu. Donc nous avons, quoi qu'il en soit, porté cette responsabilité aujourd'hui d'y aller à ces législatives, puisque c'est quand même important pour nous, en tant qu'enfants du pays, Emmanuel et moi, qui sommes engagés dans ces législatives, de pouvoir porter la voix de notre peuple, de notre pays, à l'Assemblée nationale.
Alors pourquoi vous? Je vous demandais, Omaira Neslin, d'autant plus que vous avez fait parler de vous récemment, puisque vous êtes l'élu qui a signé un protocole d'accord avec l'Azerbaïdjan, c'est cette notoriété qui a fait que vous avez peut-être été désigné parce que vous représentez quelque chose pour le monde indépendantiste, ou c'est sans aucun rapport?
Alors, en tous les cas, je veux simplement rappeler qu'effectivement, comme vous venez de dire, j'ai signé un mémorandum de coopération au nom du président du Congrès entre l'Assemblée parlementaire de l'Azerbaïdjan et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, je suis issue de Dynamique Autochtone, qui est un mouvement indépendantiste et nationaliste aussi, que nous avons aussi eu part aux discussions au bureau politique et la du FLNKS depuis quelques semaines maintenant, concernant l'avenir institutionnel du pays, mais aussi les positions au regard du projet de loi constitutionnelle concernant le dégel du corps électoral. Donc voilà, j'ai été très impliquée aussi au niveau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, puisque, comme vous savez, je siège au groupe UC-FLNKS et nationaliste au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc nous avons notre groupe, nous avons voté contre déjà le report des élections provinciales quand le Congrès a été sollicité pour donner une position sur le report des élections provinciales. Et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie aussi, avec le groupe UCFLNKS et nationaliste. Au même titre, nous avons avec le groupe Union Nationale pour l'Indépendance, le groupe UNI, nous avons déposé une résolution demandant le retrait du projet de loi constitutionnelle relatif au dégel du corps électoral. Cette résolution-là a été votée en majorité au Congrès de la Nouvelle-Calédonie lors de sa séance du 13 mai dernier.
On va y revenir encore un mot sur l'Azerbaïdjan. Vous avez compris à l'époque, parce que l'actualité passe vite, mais c'est quand même un sujet qui avait un peu dominé l'actualité pendant quelques temps. Vous avez compris que des gens puissent être choqués qu'on signe un mémorandum de coopération avec une dictature comme celle-là? Ou quand vous l'avez fait, ça vous a paru normal?
Alors, juste pour rappeler un petit peu le contexte aussi, chaque pays, enfin c'est important que de rappeler que chaque pays aussi ne se contente pas d'aller uniquement frapper à la porte de ceux qui sont avec nous. Nous avons, juste pour rappeler que l'Azerbaïdjan a présidé le mouvement des non-alignés de 2019 à 2024. Et ce mouvement des non-alignés là, c'est un couloir aussi que le FLNKS hein, a pris pour pouvoir porter sa voix au niveau international dans le cadre de processus de décolonisation. Et le mouvement des non-alignés soutient voilà tous les pays et territoires dans ce processus là. Effectivement. Voilà,
il n'empêche que c'est une dictature.
Chacun voit chaque pays avec les lunettes qu'ils ont. Simplement, rappeler que quand on va serrer la main à un pays ou une force à l'échelle mondiale, hein, juste rappeler que nos voisins australiens ont aussi reçu le Premier ministre chinois dernièrement. Que Emmanuel Macron aussi a reçu la Chine aussi.
Vous n'êtes pas responsable d'un État, hein, vous êtes élu.
Bien sûr.
Voilà, et le Congrès est censé quand même représenter l'ensemble des élus calédoniens et pas seulement une composante.
Oui.
C'est aussi l'un des éléments qui a pu choquer.
Oui.
Autre question sur votre candidature, vous êtes Rougir Dynamique Autochtone, Union Calédonienne aujourd'hui, dans le groupe UCFNKS et Nationaliste. Quelle est la position de la CCAT qui est une émanation de l'Union calédonienne? Est-ce qu'ils sont engagés dans ces élections législatives? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Ou est-ce qu'ils sont complètement en dehors de ce scrutin?
J'ai eu l'occasion de le dire hier soir sur le plateau d'NC Première que la CCAT est une émanation, a été l'émanation de l'Union calédonienne par son congrès à l'île des Pins. Et donc, j'ai eu l'occasion aussi de le rappeler. J'ai participé moi-même en tant que Dynamique Autochtone à toutes les marches pacifiques, les sittings, des rencontres dans le cadre de la CCAT, organisées par la CCAT, pour se lever justement, pour lever la voix au niveau du terrain concernant le non au dégel du corps électoral.
Mais là, c'était des marches pacifiques, ça ne l'est pas resté.
C'est vrai qu'après le 13 mai, il y a eu un mouvement de révolte. Comme l'a rappelé aussi certains leaders, notamment de l'Union calédonienne et aussi le leader de, le responsable de la CCAT, on n'a pas appelé à aller voilà, faire ces exactions-là. Simplement, ce mouvement de révolte rappelait que, quelque part, ça nous interpelle aussi, nous, en tant que responsables politiques. Je m'inclus dedans parce que pendant 40 ans qu'on a tenté de... On a fait de belles choses. Le pays s'est développé, le pays s'est émancipé. Et en l'espace de quelques jours, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont tout perdu. Et j'apporte aussi mon soutien total à toutes ces personnes aussi, ces entreprises-là qui ont tout perdu. Parce que moi-même, en tant que présidente de la commission de développement économique à la province des Îles, et au niveau de l'agence rurale également, on participe grandement dans ce processus de pouvoir faire émanciper notre pays.
Vous apportez votre soutien, mais vous condamnez ces exactions, vous condamnez les pillages, les saccages, les incendies d'entreprises, de maisons.
Bien sûr, je vous le dis qu'on n'a pas, pas appelé.
J'apporte un soutien, mais vous condamnez quand même ce qui s'est passé.
On n'a pas appelé à aller brûler, à aller faire ce qui se passe. Laissez-moi terminer. Je viens de vous dire que pendant 40 ans, on a essayé de construire un pays, de mettre un pays debout. Mais est-ce que le pays était vraiment debout? Est-ce que cet homme kanak calédonien était vraiment debout? Il était encore courbé, il était encore handicapé ou il était fatigué? Donc aujourd'hui, on a proposé un texte au niveau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sur l'économie sociale et solidaire. On l'a vu que pendant toutes ces années, il y a eu un écart quand même, des inégalités. Il y a eu des inégalités qui se sont creusées dans notre pays et ça, malheureusement, on peut pas fermer les yeux là-dessus. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent en dessous, plus de 60 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on marche ensemble pour construire un pays si on a encore des petits frères, des petites sœurs qui sont derrière nous, ou même des vieux qui n'arrivent pas encore à emmener du pain sur la table?
Mais vous savez comme moi qu'après, justement, vous êtes en plus, vous êtes élu, vous êtes très bien informé, au moyen de Nesvin. Après les émeutes et les qui n'en finissent pas, d'ailleurs après les incidents de ces les exactions de ces cinq semaines, ceux qui vont le plus souffrir, c'est justement ceux qui sont les plus pauvres aujourd'hui. Il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de possibilité de s'approvisionner. Donc en fait, ces exactions ont produit l'effet inverse. Elles vont aggraver encore les choses, non?
Oui, je peux entendre, je comprends ce que vous dites, mais ce matin...
Non, mais ce qui m'intéresse, c'est votre avis. C'est voilà. Comment vous analysez les choses maintenant?
Bien sûr, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'on a quand même l'espoir. C'est un message d'espoir pour dire qu'il y a eu toutes ces choses, mais aujourd'hui, il faut se faire confiance. Il faut savoir se mettre autour de la table. Et je pense qu'il faut arrêter aussi ces querelles politiques, politiciennes que chacun a entretenues pendant toutes ces années. Il y a quand même un malaise qui s'est installé dans notre pays. Et malheureusement, quand on passe en force des messages ou on passe en force pour aller bousculer ou dégeler un corps électoral ou bousculer la vie et la structure d'un pays, c'est ce qui va nous ramener encore chacun à dire que aujourd'hui il y a ce qui s'est passé, mais il faut quand même garder l'espoir que demain on doit construire un pays et ensemble. Et c'est cette poignée de main là aussi qui nous rappelle que c'est le socle, l'accord de Nouméa, cette poignée de main qui nous rappelle que c'est sur ce socle là qu'il faut construire. Si on marche sur cette poignée de main, si on passe en force sur cette poignée de main, si on la met de côté ou si on déchire simplement ce qu'on a construit pendant des années, ben forcément qu'on va arriver à quelque part une révolte. Bien. Mais simplement dire que c'est l'espoir en tout cas, que je porte aujourd'hui cette candidature, un message d'espoir et de dialogue, mais un dialogue durable, un dialogue qui va durer dans le temps pour pouvoir mettre debout notre pays.
Cette poignée de main, tout le monde l'invoque. Hein. Je crois que pratiquement tous les candidats aux élections législatives se réfèrent à la poignée de main entre Jacques Chaffeur et Jean-Marie Tjibaou. Vous la traduisez comment quelles sont les valeurs qu'elle porte? Parce que à l'origine, c'était partage, rééquilibrage, la reconnaissance de deux légitimités qui vivaient ensemble pour construire une communauté de destin. Comment est-ce qu'on peut la retrouver dans ce qu'on vient de vivre en cinq semaines?
En tout cas, ce que moi je porte et ce que j'espère dans cette poignée de main qui est toujours, qui reste toujours le cap, le socle de notre combat, c'est que tous nos vieux, quand ils ont acté à Nainville-les-Roches de reconnaître les victimes de l'histoire, tous ceux et celles qui sont venus dans ce pays et qui ont fait ce pays leur pays, notre pays. Aujourd'hui, on est tous dans la case. Aujourd'hui, on est tous dans la pirogue. Il n'y a personne qui va être jeté à l'eau de cette pirogue. On est tous dans cette pirogue et on doit emmener cette pirogue vers notre pleine souveraineté et ensemble.
Et les exclus du corps électoral, vous en faites quoi? Les 40 000 personnes qui n'ont pas le droit de voter en Nouvelle-Calédonie, vous leur dites, on va parler, on est obligé d'en parler, hein, de l'ouverture de la modification du corps électoral. Un accord avait été trouvé, en tout cas l'État avait réussi à proposer un projet de loi sur 10 ans glissants. Vous y êtes complètement opposé, c'est-à-dire qu'il y a des tas de Calédoniens qui, à votre avis, ne devront jamais voter.
Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est que tous ceux et celles qui veulent que ce pays soit leur pays et qui respectent en tout cas les fondamentaux de cette poignée de main, de l'accord de Nouméa, et qui respectent aussi le peuple premier et son droit à l'autodétermination, à sa souveraineté pleine et inéluctable, eh bien, on est tous ensemble dans la case.
Sur les populations intéressées, vous me parliez vous-même tout à l'heure, il y a un instant, de Naville-les-Roches, on parle de l'accord de Matignon. C'est pas que le peuple autochtone qui a droit à l'autodétermination, ce sont les populations intéressées qui englobent tous les Calédoniens. Oui. C'est pour ça qu'il y a eu 3 référendums d'autodétermination, je veux dire.
Alors, juste pour rappeler que le peuple Kanak, je crois que c'est le seul peuple au monde qui a partagé son destin avec les victimes de l'histoire. Et c'était le message, en tout cas, que nos vieux ont posé à Naville-les-Roches. Aujourd'hui, on n'a pas fermé cette parenthèse de la décolonisation, en tout cas de se comprendre chacun entre nous, peuple premier, ou voilà, tous ceux et celles qui sont arrivés avec l'histoire, qui sont victimes de l'histoire, et qui ont fait que ce pays aujourd'hui est le leur et notre pays. Ben, c'est ensemble qu'on doit, porter ce pays.
Et ceux qui ne sont pas victimes, ceux qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie, qui veulent y vivre, qui veulent le développer, qui veulent participer à sa construction, ils n'auront jamais le droit de voter?
Bien sûr que si, avec un passage en force.
Voilà, on va essayer d'avancer. Le dégel du corps électoral, est-ce qu'il peut faire partie d'un accord global?
Alors, nous, ce que nous portons, en tout cas, pour cette première circonscription et cette deuxième circonscription, pour la mouvance indépendantiste et nationaliste, c'est un accord qui va nous emmener vers la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, de Kanaky. Et ça, c'est le but final. Et tous ensemble, ceux qui veulent faire chemin avec nous, qui veulent continuer dans la case, qui veulent continuer à ramer dans cette pirogue pour emmener le pays aussi à cette pleine souveraineté, qu'ils soient arrivés hier, aujourd'hui, ou ceux qui vont arriver demain, s'ils s'inscrivent dedans, ils seront avec nous dans la case.
Il y a eu 3 référendums d'autodétermination. Vous les effacez, vous faites comme s'ils n'avaient pas eu lieu. Alors, il y a une majorité de Calédoniens qui se sont prononcés sur un corps électoral gelé, on l'oublie souvent, mais là, c'était un corps électoral gelé, qui se sont prononcés pour le refus de l'indépendance et le maintien dans la France.
Oui, juste rappeler que...
Que vous contestez le troisième.
Que l'ensemble du peuple, une grande majorité du peuple Kanak, du peuple premier, n'ont pas participé à la troisième consultation. Rappelez aussi que cette troisième consultation...
Qui a été validée par l'ONU, quand même.
Cette troisième consultation est encore... comment porter au niveau international. Il y a un travail qui est fait avec la Cour internationale de justice pour justement reconnaître que cette troisième consultation s'est faite sans le peuple concerné.
Vous avez trouvé un pays pour porter devant la Cour internationale de justice? Aux dernières nouvelles, c'était compliqué. Aucun pays ne voulait se porter ce dossier.
En tout cas, on espère. En tout cas,
vous cherchez, mais vous ne l'avez pas encore.
On y croit. Simplement de dire que si il faut qu'on construise ensemble dans la paix et dans une paix durable, il faut que chacun mette de côté tous ces... Et puis qu'on construise ensemble. Mais quand... C'est difficile, je conçois. C'est difficile, je conçois, mais comment continuer? On le voit aujourd'hui, on est dans une impasse. Comment sortir de la crise? Comment sortir de cette crise sociale?
C'est à vous que je demande.
Non, mais,
c'est vous qui vous présentez les élections. Comment on en sort? Vous parlez de discussion, mais alors, il y a eu des discussions déjà ces derniers mois. Il y a eu beaucoup de discussions, vous directement avec l'État, puis entre les indépendantistes, notamment l'Union calédonienne, et les non-indépendantistes, d'une part avec Calédonie Ensemble, ensuite avec les loyers et le Rassemblement. Ça n'a jamais abouti. Pourquoi?
Il faut savoir qu'il y a eu différentes réunions qui devaient se tenir. Et comme les législatives, ces discussions-là aussi devaient se tenir au dernier congrès. qui n'a pas eu lieu. Donc aujourd'hui, on parle des législatives. Demain, il faudra qu'on revienne tous autour de la table. Mais avant de parler des discussions, avant de parler de paix durable, il faut que chacun puisse faire le point un peu là où il est et que chacun respecte cette poignée de main, chacun respecte la place là où il est. L'État, les non-indépendantistes, les indépendantistes, et que tous ensemble, on puisse trouver demain une issue. Et une issue qui va nous emmener, en tout cas pour nous, à ce qu'on a toujours demandé, nous emmener vers un pays souverain.
Et en attendant, vous êtes satisfait que le président de la République ait annoncé une fois de plus qu'il avait décidé de ne pas réunir le Congrès ? Ça vous satisfait ? Vous l'attendiez ? Et que donc la loi constitutionnelle ne serait pas soumise au Congrès de Versailles ?
Alors, je pense que tout le monde le sait. Hein, donc ça, c'est des annonces du président Macron. Demain, qui aussi a annoncé que le texte est suspendu. Il n'est pas retiré. Donc c'est le même président Macron qui effectivement a annoncé qu'il ne convoquerait pas le Congrès. Néanmoins, l'Assemblée nationale est dissoute. Il y a des élections législatives qui sont attendues. Donc en tant que candidate à la première circonscription, on attend que ces législatives se fassent et j'appelle à la mobilisation de l'ensemble de la mouvance indépendantiste, nationaliste et progressiste à soutenir ces candidatures pour qu'une fois que l'Assemblée nationale soit debout, on verra bien si, oui ou non, le président Macron ne convoquera pas le Congrès.
Votre rôle, si vous êtes élu, ce sera essentiellement centré sur cette loi constitutionnelle ou comment est-ce que vous envisagez un rôle de député ?
Donc effectivement, ça sera cette partie-là et porter aussi la voix de notre mouvement pour une pleine souveraineté du pays. Mais mon rôle aussi en tant que députée, et je l'exerce aussi quelque part au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, où on est chargé de voter des lois, on est chargé de proposer des lois également, c'est de proposer et faire voter des lois qui, je le rappelle, c'est des lois qui vont impacter le peuple, qui impactera le quotidien des Calédoniens, qui impactera le quotidien du peuple. Et ces lois-là, si on vote des lois qui conviennent au peuple, le peuple sera en paix, le peuple va prospérer. Si ce sont des lois qui ne conviennent pas au peuple, forcément le peuple ne va pas se reconnaître dedans. Et c'est ça en fait, c'est pour le bien-être du peuple aussi, le bien-être de la population. Comme on vote des lois au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ben c'est in fine, c'est pour ça aussi que je vais en tout cas porter la voix.
Quand on voit la configuration qu'on prévoit aujourd'hui de l'Assemblée nationale, on va attendre que les législatives soient finies, on va attendre le 7 juillet. On voit pour l'instant un gros bloc Rassemblement national, un gros bloc Front populaire et un bloc peut-être plus étroit de la majorité présidentielle. Si vous étiez élu, ce serait plutôt vers le nouveau Front populaire que vous iriez ? Ou est-ce que vous n'y avez pas encore réfléchi ici ?
Certainement.
Vous avez des contacts avec eux ?
On a quelques contacts puisque nos responsables sont revenus aussi de Paris puisqu'ils ont fait pas mal de, ils ont tenu pas mal de travaux et de contacts aussi avec des responsables de l'Assemblée nationale. Donc on va certainement avoir des positionnements là-dessus. Mais je vais rappeler que on a eu l'occasion au Congrès de la Nouvelle-Calédonie de porter des lois, notamment sur l'économie sociale et solidaire. Des lois notamment sur le Covid, où on a quand même porté aussi des amendements au niveau du Congrès, pour ma part, concernant des lois liberticides, par exemple, sur les passes sanitaires, etc. Donc c'est un peu ça aussi que je me dis que je pense avoir aussi ma place pour pouvoir porter la voix du peuple dans ses plus hautes instances, comme je l'ai fait au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
En attendant, pour conclure, comment est-ce que vous faites campagne ? Une campagne extrêmement brève, avec beaucoup de contraintes de déplacement. Vous arrivez à faire campagne dans les îles, par exemple ?
Alors, on s'est déjà projeté pour pouvoir se déplacer dans les îles. Et je vais déjà m'excuser pour celles où on ne pourra pas y aller, car on est contraint forcément du planning d'Air Calédonie, qui est sous dispositif NOTAM. Donc c'est un vol par destination par jour et encore il y a des destinations où c'est un vol par semaine. Donc la campagne va être contrainte, comme vous le dites, va être serrée, mais on compte sur chacun d'entre nous pour pouvoir porter la voix du mouvement indépendantiste, porter la voix des mouvements nationalistes, là où on est, dans nos quartiers, dans nos tribus, dans nos espaces. Et on essaiera aussi surtout de beaucoup communiquer aussi sur les réseaux. On a d'ores et déjà, Emmanuel Tchibaou et moi, proposé d'ouvrir des pages officielles pour cette campagne législative. Et on essaiera de mettre le maximum de choses concernant notre campagne, notre profession de foi, sur nos pages officielles.
Très bien, Oumera Nesline, candidate aux législatives dans la première circonscription, sous l'étiquette indépendantiste nationaliste, hein, c'est le terme exact.
C'est bien ça.
Ils n'ont pas voulu nous donner notre liberté, préférant les forces armées et les magouilles politiques, des arrestations aux assassinats de nos leaders canaques, tombés dans l'insouciance de ce système colonial. Que justice soit faite sur terre canaque. Justice, vérité, droit, mon peuple. Justice, vérité, droit, canac. JVDK. Colonialiste français a bafoué notre identité, malmené un peuple colonisé. Colonialiste racial, ta répression cause à notre révolution. Hey! Que justice soit faite sur terre canaque. Vérité, droit, mon peuple. Justice, vérité, droit, canac. Civetica. Oh, 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 yeah. Hey. Oh, 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 yeah. De nos leaders canaques tombés dans l'insouciance de ce système colonial. Hey! Que justice préfecture de Kanaki. Justice, vérité, droit, mon peuple.
Après cette interview d'Omaïra Neslin, le 21 juin, sur la radio Rythme Bleu, dans le cadre de la prochaine élection législative, voici ce que le 24 juin, trois jours plus tard, ce que nous entendons aux infos de la chaîne de télévision Calédonia.
Au lendemain du transfert de sept membres de la CCAT vers la France pour effectuer une détention provisoire, les tensions ont de nouveau éclaté aux quatre coins du pays. La situation reste toujours fragile. Le récit de cette journée par nos journalistes sur le terrain.
La nuit a été mouvementée à Tadine. La gendarmerie a été la cible de cocktails Molotov et de pierres durant plusieurs heures. Des barrages ont été érigés devant la caserne cette nuit. Ce matin, les services communaux ont déblayé la route, mais les cocotiers tombés ont endommagé le réseau électrique, engendrant une coupure d'électricité sur une partie de la zone de Tadine, où banques et OPT sont restés fermés. Il n'y a pas qu'aux îles où les tensions sont palpables. Dans le nord, une personne a été blessée par balle aujourd'hui à Bouraille. À Koumac, si les barrages sont filtrants, les services municipaux n'ont pas ouvert aujourd'hui. Et pour cause, des actes de vandalisme ont été observés. Du côté de Poya, des affrontements ont également eu lieu hier entre les forces de l'ordre et des personnes sur les barrages. C'est après avoir reçu des tirs de flashball que les militants ont décidé de bloquer la route complètement. Les forces de l'ordre sont retournées sur place ce matin pour tenter de déblayer le passage. Malgré un apaisement sur les barrages, elles n'ont pu libérer l'accès. Seules les urgences médicales et les dialyses peuvent passer.
Il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Même si nos leaders sont pas là, mais la consigne, elle demeure. Donc il faut respecter le travail qui a été déjà mis en place. Il faut vite retrouver ses esprits et rester dans les mêmes consignes. C'est pour ça que même ce matin, quand les forces de l'ordre sont revenues, on a essayé de calmer nos gens, de canaliser, de laisser passer, mais en les laissant se débrouiller pour dégager la voie. Quoi. Ils ont mis, comme j'ai dit, là, ils ont mis au moins 3 heures pour pouvoir passer rien que nous. Là.
Dans le sud du pays, à Dabléa, la journée a été mouvementée. Plusieurs barrages ont été érigés sur la Save Express et des affrontements entre militants et forces de l'ordre ont eu lieu. Cette nuit, le poste de police de la commune a été incendié. Une situation instable qui a poussé la municipalité à fermer les écoles, et ce jusqu'à mercredi, dans l'attente de réévaluer la situation. Cette reprise de tension au pays intervient 7 semaines après le déclenchement des événements le 13 mai.
Et le transfert des 7 membres de la CCAT vers la France pour une détention provisoire a créé donc la surprise. La mesure décidée samedi soir au tribunal intervient à la suite de la mise en garde à vue de 11 membres de la cellule. Brenda Wanabo, chargée de communication de la CCAT, est l'une des personnes interpellées qui a été transférée vers la France. Son avocate, Louise Chocha, nous raconte comment cela s'est passé.
Les choses se sont passées de manière extrêmement brutale, en fait. Ils n'étaient pas informés, déjà, donc sur les détentions provisoires, on a été informé que c'était requis par le procureur de la République, mais ensuite, ça n'a pas été mis vraiment dans les débats sur les départs en métropole. Le juge d'instruction, le juge de la liberté et de la détention, n'ayant pas évoqué cette possibilité. Donc, on a plaidé uniquement sur la détention provisoire, puis elle a été prononcée, et à ce moment-là seulement, on a appris que c'était une détention provisoire dans des centres hors du territoire. Brenda était extrêmement choquée, elle a été dévastée, elle pensait uniquement à ses enfants, et elle a été autorisée par le juge d'instruction à voir son conjoint, mais sans qu'il ne puisse évoquer un mot, et pour une durée extrêmement courte de quelques minutes à peine. Ils n'ont pas eu le droit de parler, uniquement de s'enlacer dans des sanglots terribles, et en présence de plusieurs personnes. Elle conteste très très fermement l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. J'espère que l'enquête réussira à démontrer qu'il n'y a absolument rien qui puisse constituer une quelconque infraction dans son dossier. En tout cas, moi j'y crois très fort.
Une mesure qui a de suite fait l'objet d'un appel de la part des avocats des 7 prévenus concernés. La cour d'appel a 20 jours pour se prononcer. De son côté, le procureur a justifié cette décision en raison, je cite, de la sensibilité de la procédure et afin de permettre la poursuite des investigations.
Le 24 juin 2024, toujours dans le journal télévisé de la chaîne Calédonia, Emmanuel Djibaou, candidat indépendantiste dans la deuxième circonscription, était reçu. Emmanuel Djibaou est le fils de Jean-Marie Djibaou. Alors il faut rappeler que Jean-Marie Djibaou, leader du FLNKS et Jacques Lafleur, chef des loyalistes, avait signé le 26 juin 1988 les accords de Matignon sous l'égide du Premier ministre Michel Rocard. Une poignée de main historique mettait fin à 7 années d'affrontements et de violences entre opposants et partisans de l'indépendance qui avaient fini par dégénérer en quasi-guerre civile. Cette poignée de main n'a pas été acceptée par tous les indépendantistes kanak et Jean-Marie Djibaou a été assassiné le 4 mai 1989 à Ouvéa. Kanaki perdait ainsi un leader politique essentiel dans la lutte du peuple kanak pour la décolonisation. Mais la famille Djibaou a repris le flambeau. Et Emmanuel Djibaou, directeur de la culture en Kanaki, s'est engagé dans le dialogue pour la paix en Nouvelle-Calédonie. Alors nous écoutons ce qu'il nous dit donc ce 24 juin 2024 à la télévision Calédonia, après les graves événements qui se sont produits.
Ce soir, dans cette course aux législatives, nous recevons Emmanuel Djibaou, candidat indépendantiste de la seconde circonscription pour la liste nationaliste et indépendantiste. Emmanuel Djibaou, bonsoir.
Bonsoir.
Pour commencer, on l'a appris ce week-end, votre frère, Joël Djibaou, compte parmi les 11 personnes poursuivies dans le cadre des exactions commises depuis le 12 mai. Il sera entendu demain au tribunal de Nouméa, ainsi qu'un autre prévenu. 7 autres ont été transférés dans des prisons en France. Comment réagissez-vous à cette situation?
Je dirais que je suis assez surpris et puis solidaire de ce qui a été la mobilisation de qui a soulevé l'ensemble du pays, parce que c'est lorsqu'on est nationaliste, on ne peut que être insatisfait de ce que sont les conditions dans lesquelles aujourd'hui on nous amène à discuter pour sortir de la position qui va être celle de l'après-accord de Nouméa. C'est exprimer la solidarité à l'ensemble du pays, des entreprises, autant que ceux qui ont leur famille touchée par ce qui s'est passé dans le deuil. Donc c'est un sentiment de gâchis. On a prévenu, on a alerté, attention, attention. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec cette situation dont on est tous comptables. Et le fait que je me présente, c'est aussi pour assumer cette responsabilité-là au devant de nos compatriotes.
On va y venir, hein. Des délégations de la CCAT semblent plaider en faveur du boycott législatif. Pourquoi selon vous, est-ce important d'aller voter?
Alors moi, je pense que voter, c'est important dans la mesure où on se place en tant que nationaliste. Et puis si on doit sortir de la situation ainsi créée, selon les termes de l'accord de Nouméa, où les partenaires doivent se retrouver, il faut indiquer une situation qui soit, comment dire, des conditions sereines de reprise du débat. Là, le dégel, l'inscription du projet de dégel du corps électoral au provincial, passé à l'Assemblée, ça fait partie des choses qui ont amené la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et c'est ce qui explique en grande partie ce pourquoi je suis devant vous aujourd'hui, afin de retrouver finalement les conditions peut-être plus sereines et alerter l'État face à ses responsabilités en étant là-bas, dans l'hémicycle des pas nationaux.
Monsieur Djibaou, pourquoi avoir déposé votre candidature finalement après, je le rappelle, le rendez-vous manqué du 43e congrès du FLNKS qui devait se tenir à Netshaot, à Koné, et permettre finalement, entre autres, de décider d'un candidat commun?
Il faut poser la question au FLNKS. Moi, j'ai accepté en mon nom après avoir consulté ma section de base, ma propre structure. Je prends mes responsabilités. Après, en tant que nationaliste, on se place toujours dans cette perspective d'aller vers le chemin vers la pleine souveraineté. Et aujourd'hui, on a vu le résultat du travail mené par l'ancien député de la seconde circonscription. Et c'est à cette obligation-là qu'on doit de répondre, de porter le débat dans les instances de débat nationaux, pour dire à nos compatriotes députés nationaux qu'ils ont une obligation, puisque l'État est partenaire des deux accords signés, de Matignon jusqu'à 98. Et même si aujourd'hui on se place dans ce contexte-là, quand on dit rappeler les obligations, c'est jusqu'au bout de la décolonisation. C'est un petit peu le propos qui fait qu'on on amène cette discussion là-bas au cœur de l'hémicycle.
Presque 36 ans, jour pour jour, à deux jours près, votre père Jean-Marie Tjibaou serrait la main de Jacques Lafleur pour sceller la paix. Aujourd'hui, vous êtes candidat aux législatives. Quel serait, selon vous, le chemin à prendre pour sortir de cette nouvelle crise ?
Pour sortir de cette nouvelle crise, vous l'avez rappelé, le chemin, il a été celui du dialogue. Et à partir du moment où l'un des trois partenaires dont j'ai cité tout à l'heure les composantes, les loyalistes, les nationalistes et l'État fait défaut, il n'y a pas de conditions acceptables, même sous des ultimatums ou sous des conditions de prêt de la part du président Macron. Il faut accepter de discuter dans des conditions plus sereines et donc enlever tous les dispositifs qui nous contraignent finalement à engager des perspectives que selon un calendrier qui, pour nous, n'est pas celui d'un débat serein. Donc ça veut dire, se donner le temps pour réfléchir.
Se donner le temps, on parle, vous l'avez dit vous-même, là, on parle souvent finalement de la nécessité de rouvrir le dialogue entre les classes politiques. Pourquoi est-ce si difficile ?
Je pense que c'est difficile aussi du fait que certains de nos élus loyalistes reviennent sur leurs propres engagements. Depuis 83, Nainville-les-Roches, le statut Lemoine qui a tenté de, sur le même dispositif, noyer le dispositif qu'on a essayé de mettre en place pour faire pays, et celui de 88 dans lequel on a préparé finalement le projet de société qui devait aboutir en 98 sur un accord de décolonisation, c'est toujours le même. C'est toujours la même chose, c'est pourquoi on se bat et on continue à répéter que cet engagement, il ne doit pas se faire sans nous. Même si la troisième consultation a eu lieu, les indépendantistes n'ont pas participé. Encore une fois, de prendre le parti de décider sans nous, c'est nous retrouver en face. Et c'est ce qui explique que la mobilisation qui se fait aujourd'hui se retrouve sur le terrain avec ses maladresses, avec peut-être ses travers. Mais ça n'est que la répétition de l'histoire et on connaît le résultat. Donc même cause, même effet. Nous, on dit aujourd'hui qu'il faut changer une variable dans l'équation. C'est ce qu'on amène là avec cette proposition de candidature.
Parler de répétition de l'histoire, comment expliquer qu'on en soit arrivé là ? Était-ce prévisible selon vous ?
C'était prévisible puisqu'on l'a déjà vécu. Et on ne fait que rappeler l'histoire des engagements qui ont fait qu'aujourd'hui, on est dans un processus qui devait aboutir à un statut transitoire vers la souveraineté, et puis on entend nos partenaires se draper dans la démocratie, dans la paix idéale, alors qu'ils se sont dédiés des engagements qu'ils ont signés. C'est ça qu'on est en train de remettre en cause, de dire prenez vos responsabilités, et puis validez ce qui a été entendu au Congrès de Versailles. Aujourd'hui, on est dans une situation où on fait sans nous, on ne fera rien dans ce pays sans nous. C'est ça qu'on dit aujourd'hui.
Dernière question et rapidement, si vous êtes élu, vous seriez le premier député indépendantiste à l'Assemblée nationale. Que défendrez-vous en priorité ?
Il y a déjà eu un député indépendantiste, c'était le député Pigeot. Mais ce que le cœur de mon engagement, c'est d'abord de formuler des conditions de reprise du dialogue pour aller vers aux confins de l'accord de Nouméa. Le dégel du corps électoral aux élections provinciales, ça fait partie des dossiers qui, à l'heure aujourd'hui, font obstacle à la reprise des discussions. Ça va être ça, mon premier dossier.
Emmanuel Tjibaou, ce sera le mot de la fin, directeur de la culture en province nord et candidat dans la seconde circonscription sous l'étiquette nationaliste et indépendantiste. Merci pour ça.
Jean-Pierre Taïeb Haïfa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien maire de Bouraï, ancien président de l'Assemblée territoriale et ancien membre du comité des sages créé par Édouard Philippe en 2018 au lancement du processus référendaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous dire ce que vous avez vécu, ce dont vous avez été témoin depuis le 13 mai 2024 ?
Eh bien, ce que l'on a vécu depuis le 13 mai, malheureusement, ça nous rappelle de mauvais souvenirs, très mauvais souvenirs de 1984 et de 1988. Nous, les anciens qui avons vécu ces périodes, nous pensions qu'avec l'accord de Nouméa, après, je veux dire, autant de morts après la tragédie d'Ouvéa, qu'on ne reverrait jamais ça dans notre pays. Mais 36 ans après, les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Eh bien, on revient au grand galop, aux mêmes erreurs que l'on a connues dans ces périodes, que ce soit des erreurs par l'État, qui ne comprend pas toujours la Nouvelle-Calédonie, ou par la Calédonie, qui n'a peut-être pas su faire ou suffisamment fait pour justement s'occuper de cette jeunesse. Mais nous sommes tous quelque part responsables.
Vous avez eu des mots forts envers l'État.
Eh bien, je crois que... Pourquoi des mots forts envers l'État? Tout simplement que dans les années 84, après donc Naville-les-Roches, l'État ne respecte pas ses engagements. L'État fait fi de ses engagements pris à Naville-les-Roches. Pour faire plaisir à qui, on ne le sait pas encore. L'État n'entend pas les appels, je dirais, il y a eu plusieurs appels hein, auprès de l'État à dire « Attention, vous êtes, je dirais, dans la mauvaise voie. »
Vous avez alerté plusieurs fois l'État.
Personnellement, j'ai fait une note de 3 pages en 2022, 3 septembre 2022, il y a une note de 3 pages qui est arrivée à Emmanuel Macron.
Vous disiez
quelques mois après, je l'ai transmise à d'autres personnes. D'autres personnes bien placées, que ce soit un président de l'Assemblée nationale, que ce soit d'anciens fonctionnaires ici, l'attaché, le responsable outre-mer d'Emmanuel Macron l'a eu entre les mains, le directeur de cabinet aujourd'hui d'Emmanuel Macron, qui était au commissaire ici, a eu cette note. Rien n'y a fait. Mais le pire, c'est que d'autres notes ont été faites, que ce soit celle de M. Muliava, que ce soit celle de Louis-José Barbançon, que ce soit une note que j'ai faite, ou d'autres qui ont été faites par des personnes anonymes, une note que j'ai faite le 9 avril 2014. À partir de cette note, moi je ne comprends pas que le président de la République, à moins qu'on lui ait caché, mais qu'il puisse réagir comme ça, ou à moins que, comme d'habitude, et comme l'État étant sorti de son impartialité en 2021 pour le dernier référendum, elle a certainement cru d'autres personnes que nous, qui ne faisions qu'appeler à la prudence pour ne pas retomber dans la violence.
Vous aviez prévenu Sébastien Lecornu avec les autres membres du comité des sages.
Oui, on a passé à Yengen, le comité des sages s'est rendu à Yengen, pour une rencontre avec Sébastien Lecornu. On a passé 2 heures. Tous les membres du comité des sages sont exprimés. On a pratiquement, presque tous, dit la même chose à notre façon. On croyait qu'il avait entendu que l'État devait rester dans son impartialité, que l'État devait continuer à procéder de la même manière que tous les successeurs de Michel Rocard ont fait jusqu'en 2022 pour le référendum. On a eu l'impression qu'il nous a écoutés, mais il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Il a fait tout le contraire. D'où le résultat aujourd'hui.
10 000 émeutiers ont ravagé Nouméa. D'où est-ce qu'ils viennent? Qui ils sont, ces jeunes?
Ces jeunes? Bien, c'est pas compliqué. Je crois que tout le monde sait que Nouméa et sa périphérie, je dirais, accueillent la plus grande tribu du territoire. Et puis, il y a ces 6 000 à 7 000 squats qui existent. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que tous les ans, c'est environ 800 jeunes qui sortent du système scolaire. On va dire, ce 800 jeunes, il y a 90% de Mélanésiens. Et puis, il y a aussi, je dirais, l'accueil de nos jeunes qui sont souvent condamnés, qui passent par la case prison pour quelques semaines ou quelques mois, et puis qui souvent ne rentrent pas dans leur commune ou dans leur tribu, de peur de prendre des sanctions, et restent, je dirais, dans la périphérie, ou restent quelque part accueillis dans les villes. Ça, ça fait partie aussi. Et puis, il y a un autre phénomène aussi. Il y a ce phénomène du logement. Du logement, des cités. Ce que, à une époque, on avait réussi à faire, c'était d'éviter d'avoir des cités communautaires. Hein. On a eu l'expérience dans les années 60 de la cité Moravel. On s'est vite rendu compte que ce n'était pas forcément la bonne formule. Donc, à peu près dans les mêmes périodes, il y a eu Logicop qui s'est mis en place sur Ducos, et puis là, c'était la mixité, je dirais, des communautés de ce pays. Ensuite, il y a eu le Fonds social d'habitat. Il est vrai qu'il y avait peut-être beaucoup plus d'Océaniens dans le Fonds social de l'habitat installés. Quand je parle d'Océaniens, c'est toutes catégories confondues, hein, Mélanésiens, Wallisiens, Tahitiens et autres. Et on a fait donc une mixité. Et puis, il y a eu Toubon, il y a eu Majata, il y a eu Apogoti. Apogoti, c'est la pire des réalisations d'habitat que moi j'ai pu voir de mon histoire. Et il ne faut pas s'étonner que la concentration, la promiscuité, la situation, je dirais, inhumaine de mettre des gens dans, je dirais, presque des cages à lapins, que l'on puisse à un moment donné avoir aussi ce genre de réaction. Alors, ce n'est pas pour excuser du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est grave. C'est grave de conséquences. Jamais, jamais, j'ai fait du syndicalisme. J'ai fait des grèves. J'ai participé, dans le cadre de la direction des syndicats, à faire des grèves. Mais jamais, on a toujours préservé l'outil de travail.
Oui.
L'outil de travail, il appartient, je dirais, à la classe moyenne ou à la classe de travailleurs. Cet outil de travail, c'est ce qui nous permet de vivre, de faire vivre le patron aussi, mais aussi de vivre et de pouvoir s'émanciper.
Et c'est une des grandes différences.
Là-dessus, c'est grave de conséquences. Pourquoi ? Parce qu'on a 50 000, on avait 50 000, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est les chiffres qui sont donnés, personnes sous le seuil de la pauvreté. Au sortir, quand on sortira de cette période, ça sera davantage, ça ne sera pas de la pauvreté, ça sera une précarité, ça sera une misère. Ça, il faut s'y attendre. Et puis, là, c'est tous les régimes sociaux qui vont être mis à mal. Ils étaient déjà à mal, mais là, avec ce qui s'est passé, si on prend les chiffres donnés de 7 000, voire 8 000 pertes d'emploi, c'est tout le système de couverture sociale, de couverture de santé, de couverture retraite, d'allocation familiale qui est mise à mal. Alors, je crois qu'il faut prendre au sérieux. Prendre au sérieux, cette jeunesse, elle a été oubliée. Quand on entend parler, ou qu'on entend dans les débats parler de milliards déversés en Nouvelle-Calédonie, des milliards, il y a eu des milliards. Il y a eu de bonnes choses de fait. Mais il y a aussi des choses qui ont été peut-être faites, qui ont été faites à l'encontre de ce que la population attendait, ou de ce qu'elle voulait. Cette jeunesse, à mon sens, personne n'a vu le mal, le mal-être de cette jeunesse. Et cette jeunesse, au sortir de cette période difficile, c'est la première des choses, c'est se pencher sur, et surtout tirer la leçon, mais se pencher sur le pourquoi on en est arrivé là. Si on ne fait pas ça, hein, si on ne veut pas changer la société et entreprendre une grande réforme sociétale dans ce pays, que la répartition des richesses, elle retombe, pas que les miettes, hein, pour ceux qui sont au milieu, et que ceux qui sont en bas, ils n'ont pas le temps de récupérer les miettes. Donc je crois que là, il y a une grande réforme à mettre en œuvre, une réforme sociétale. La Calédonie en a besoin. La Calédonie est un pays riche, c'est un pays dont le produit intérieur brut est certainement le plus beau de la région Pacifique. Peut-être à l'exception de la Nouvelle-Zélande, on a le plus beau PIB par tête d'habitant, mais très mal réparti. Il y a une pauvreté qui s'est installée, et avec ces événements, ce sera de la misère que l'on va voir. Ce que, personnellement, je souhaite, c'est de revenir à la raison, pour ouvrir un chemin vers la paix. Parce que nous avons travaillé pendant 7 ans, nous avons rencontré, pendant 6 ans, avec le comité des sages, nous avons rencontré énormément de jeunes. Énormément. Que ce soit dans les lycées, même les collèges. Les collèges, on a rencontré. On a rencontré les gens, les gars de service militaire adapté. On s'est rendu compte d'une chose. C'est que le service militaire adapté, aujourd'hui, il servait à réapprendre les fondamentaux de l'école. Que une très grande partie, une très large partie des jeunes rentrant au service militaire adapté ne savaient très peu lire et très peu écrire. Donc ça veut dire que là, quelque part, l'échec scolaire, l'histoire. Nous, au comité de sages, on a beaucoup parlé de parole, de vérité, de mémoire et de réconciliation. Tout simplement parce que, aussi, on s'est rendu compte que la jeunesse, une génération, ne connaissait pas l'histoire. Où chacun avait, je dirais, la vérité de la période qu'on a traversée dans les années 84 ou les années 88, n'avait que partiellement. Et puis, il y a aussi un travail que l'on avait signalé qui n'a pas été fait. Les événements de 84 ont été douloureux. Parce qu'effectivement, la capitale n'a pas subi les événements de 84. Elle a eu quelques heures, quelques grandes manifestations à la suite de la mort de jeune Yves Tual. Mais elle n'a pas connu ce que nous, on a connu en Beauce. Commune comme Bouraille, incendie du magasin Courtois, 3 morts. Un militaire, un jeune bourraillé et une femme bourraillaise de 45 ans. Aujourd'hui encore, on souffre. On souffre. Quand on a géré cette période, quand on a géré les deuils, quand on a géré les familles qui sont restées, les mamans, les papas, les frères, eh bien, on souffre encore aujourd'hui. Donc je crois que le rétablissement de la confiance, il passe déjà par l'État. Le rétablissement de la paix, il passe par nous. Mais je pense que il faut peut-être qu'en Calédonie, on arrête de toujours avoir recours à l'État là-bas à 22 000 km, des gens qui souvent ne connaissent pas les communautés océaniennes, ne connaissent pas, je dirais, notre culture, la culture kanak d'un côté, la culture des diverses communautés de ce territoire, et puis la culture calédonienne. La culture calédonienne, une culture métissée, qui fait partie des cultures kanak, nous côtoyons depuis des générations, des cultures des autres qui sont venus, que ce soit les cultures des gens qui sont venus, enfin qui ne sont pas venus, que l'on a envoyé du Maghreb ici, d'Indochine ici, ou des gens qui sont venus travailler dans ce pays, que ce soit les Japonais, que ce soit les Indonésiens, plus tard, bien plus tard, les Wallisiens et Tahitiens. Donc je crois que on a besoin aussi, nous, de faire notre travail, celui qui nous appartient. Parce que toujours demander aux autres de faire, eh bien on se rend compte que la France, les gens qui sont aujourd'hui en poste au pouvoir, lorsqu'ils veulent traiter le problème de Nouvelle-Calédonie, ils le traitent comme un problème de la région et d'un département. Nous ne sommes pas département, même si certains élus pensaient qu'on pourrait mettre la Calédonie en département de 3 ans pour régler les problèmes. Non. La Calédonie a fait un choix dès 1958, lorsqu'a été proposé à Nouvelle-Calédonie le choix département, communauté française ou territoire. Nouvelle-Calédonie a choisi le territoire. Et maintenant, avec l'accord de, les accords de Matignon et l'accord de Nouméa, Maintenant, on a un pays avec des lois de pays, c'est-à-dire qu'on s'est émancipé. Il y a besoin encore, certainement, je dirais, de continuer cette émancipation qui était prévue dans l'accord de Nouméa.
Aller encore plus loin dans l'émancipation.
Bien sûr.
Bien sûr.
Bien sûr.
Pourquoi bien sûr?
Pourquoi que ce pays continue, je dirais, à une grande partie des transferts de compétences ont eu lieu. Il est bon d'en faire maintenant le point, l'analyse, voir à quel point on est au niveau de la situation des transferts de compétences, et puis voir des compétences partagées. Est-ce que les compétences régaliennes qu'il reste, est-ce que certaines ne peuvent pas être des compétences partagées? Est-ce que aujourd'hui, ce que souvent j'ai mis dans des notes, les Calédoniens, les Kanaks en particulier, sont des francophones. Les Kanaks n'ont pas, je dirais, de contentieux avec les Français. Ils ont des contentieux avec l'État français.
Oui.
Donc ils sont francophiles. Faisons attention de ne pas en faire des francophobes, des anti-français. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on n'entendait pas, ni en 84, ni en 88, c'est de faire de l'anti-France.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, on l'entend.
Ah oui.
Et puis, il faut que l'État définisse un autre rapport avec la Nouvelle-Calédonie, avec le peuple calédonien. C'est-à-dire que sortir, je dirais, du colonisateur colonisé, du dominant dominé, et installer un véritable partenariat. Quand on dit partenaire, je dirais la définition du mot, elle est précise. Partenaire, ça n'est pas dominé. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on revient à un système dominateur. Et ça, pour nous, les Calédoniens, je ne suis pas le seul, hein, c'est insupportable.
Sans toucher votre micro, qu'est-ce qui est insupportable pour vous?
Ben, ce qui est insupportable, c'est de voir le comportement, je dirais, de l'État dans ce pays, où on revient dans un système de dominant, on vient nous dire ce qu'il faut faire.
Oui.
On vient nous dire ce qu'il faut faire.
Oui.
Il y a des gens qui arrivent, et puis qui commencent à vous dire ce qu'il faut faire. Alors, avec moi, ça passe mal. Alors, dis-moi, quand je vais en France métropolitaine, je mets le costume. Je respecte, je vous respecte. Quand vous venez ici, vous mettez le jean, vous me respectez.
Non, je vous demande de préciser parce que partager les compétences, ça en revient à imaginer une souveraineté. Il est temps de parler de souveraineté.
Mais vous parlez de souveraineté. Quand on demande la souveraineté, quand on demande l'indépendance, l'important c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le contenu. C'est pas le mot qui importe, c'est pas le contenant qui importe, c'est ce qu'il y a dedans. On a déjà une grande partie de souveraineté. Qu'est-ce qui interdit que d'arriver et d'aller un peu plus loin plutôt que d'arriver, je dirais, à la casse.
Là où on en est.
Moi, je fais le choix de la paix.
En conclusion, est-ce que vous auriez un message à adresser aux Calédoniens, aux habitants de la Nouvelle-Calédonie?
Le message, c'est déjà d'écouter l'autre. Pas seulement d'écouter, d'entendre l'autre. D'entendre ce que l'autre veut vous faire passer comme message. Et puis, de partager. De partager, et surtout, je dirais, de rentrer dans une très grande humilité. Très grande humilité, et qui permet aussi, je dirais, d'engager un respect réciproque. Parce que ce qui a changé ces dernières années, et moi j'ai été sidéré, c'est de voir le manque de respect, y compris dans les institutions. Même si j'ai dû gérer, à un moment donné où j'étais président de l'Assemblée, l'envahissement de l'Assemblée territoriale, mais ça, c'était une population extérieure. Mais à l'intérieur de l'Assemblée territoriale, les gens se respectaient. Mmh. Il y avait des opinions différentes, des points de vue différents. Il y avait des discussions, il y avait des débats, mais il y avait un profond respect. Et surtout, c'était la défense de l'intérêt général. La défense de l'intérêt général faisait que on se préoccupait moins de savoir si on allait exister à un renouvellement futur de membres de l'Assemblée territoriale et autres. Ce n'était pas notre souci. Le souci, c'était de travailler pour l'intérêt général. Et le message que je peux donc faire passer aujourd'hui, c'est de demander à toute notre jeunesse de regarder ce que les anciens ont fait. Ils n'ont peut-être pas tout fait, mais ils ont beaucoup travaillé pour améliorer les conditions de vie de notre jeunesse, les conditions de scolarité. Même s'il y a un échec scolaire, il y a une scolarité gratuite dans ce pays. En matière de santé, demain, on aura un gros problème, c'est sur les problèmes de santé. Comment on va financer notre santé? Comment on va rétablir tout ce qui a été cassé? Et surtout, je dirais, de veiller à ne pas rentrer dans la violence, parce que la violence engendre une réponse par la violence aussi. Aujourd'hui, ça a été réussi, de ne pas succomber, je dirais, à la réponse de violence contre la violence. Et puis, aujourd'hui, on doit tous travailler au rétablissement de la confiance. Étant en charge et en responsabilité, il nous a fallu plusieurs mois après 84 pour rétablir la confiance. Quand vous avez 90 employés dans une commune, que vous avez moitié-moitié, mélanésiens et autres, que vous êtes resté pendant plusieurs mois sans faire de ramassage scolaire, donc à l'école, et que nos écoles sont peuplées, une commune comme Bouraille, notre ramassage scolaire, c'était plus de 70%, je dirais, de petits mélanésiens. Donc après, il faut retravailler ça. Et retravailler ça, ça n'est pas toujours évident. Il faut être tous les jours à surveiller tout ce qui se passe. Donc on va avoir un grand moment de reconstruction. Il ne faut pas non plus que cette reconstruction, elle ne profite qu'à quelques personnes. Il faudra regarder globalement que cette reconstruction serve à la société calédonienne en entier. Que personne ne reste sur le bord de la route. Que les retombées n'aillent pas que, je dirais, dans les poches des grandes sociétés. Que la valeur ajoutée reste sur notre pays.
Jean-Pierre Taïeb, Haïfa, merci.
Un grand merci.
Nous arrivons à la fin de notre émission Civispacem consacrée aux événements dramatiques qui se déroulent en Kanaky depuis le 15 mai 2024. 15 mai 2024, c'est la date à laquelle la loi sur la modification du corps électoral a été votée en France et a mis le feu aux poudres. L'insurrection kanak, qui est fortement réprimée par la police et l'armée coloniale, a déjà provoqué de nombreuses victimes et risque de mettre le pays dans une situation dangereuse. Tous les Calédoniens savent que c'est le gouvernement français, et particulièrement Macron, qui sont responsables de cette situation. Les élections législatives décidées par le président qui se veut vengeur de son échec aux élections européennes créent un trouble nouveau chez les Calédoniens. Mais certains indépendantistes, candidats en Nouvelle-Calédonie, vont essayer de se faire entendre. Il s'agit d'Omaira Neslin et d'Emmanuel Djibaou, que vous avez entendu au début de cette émission. Mais j'ai tenu à terminer cette émission avec une analyse de la situation par Jean-Pierre Haïfa, maire honoraire de Bouraï. Bouraï, cette commune où ont été déportés les insurgés algériens de 1871. Jean-Pierre Haïfa a été aussi président de l'Assemblée territoriale en 1978, élu du Congrès dans les années 2000. Jean-Pierre Haïfa a participé même à la table ronde de Nainjeville-les-Roches en 1983 et il a été membre des sages pendant la période référendaire. C'est donc la parole d'un sage qui a toujours privilégié le dialogue sur la violence qu'il faudrait entendre. Mais le gouvernement français ne l'a jamais écouté. Espérons que les nouveaux élus comprendront que la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie est obligatoire pour conduire à la paix. Nous terminons maintenant cette émission avec une chanson kanak et je remercie aussi Frédéric qui assure la diffusion des émissions Civispakem. Alors maintenant, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Me to burn and what? I Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille qui n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre et qui de partout me fait la guerre au vent d'hiver. Convient pas que vous raconte comment je me suis mise à honte, en quelle manière que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenu et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Le mal ne sait pas seul venir. Tout ce qui m'était à venir, à venir. Pauvre sens et pauvre mémoire. M'a Dieu donné le roi de gloire et pauvre rente. Et droit au cul qu'en bise vente, le vent me vient, le vent m'évente, l'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte et il vantait devant ma porte, les emportants, l'espérance de lendemain faite.
Radio Libertaire 89.4.
Il ne faudra jamais dire tout ce qu'on a vécu. Ça ne regarde pas les gens du temps qui passe. Ni mes histoires de cœur, ni mes amours déçus n'avantageront pas mon reflet dans les glaces. Je suis un enfant qui marche à pas comptés entre des HLM et des fleurs en plastique, entre trois cimetières et quatre vérités, en plein cœur d'un présent qui va fermer boutique. Il ne faudra jamais dire ce qu'on a compris, on l'a fait par hasard et sans aucun mérite. Quand j'ai vidé ma poche, il me reste le prix de quatre roses rouges et d'un cornet de fruits. Il ne faudra jamais révéler nos secrets, ça ne regarde pas les gens qui nous regardent. Ils viennent d'un pays où plus rien n'est sacré. Qu'ils crèvent entre copains, tant pis. Que Dieu les garde. Il ne faudra jamais dire qu'on était heureux, qu'on avait du talent, qu'on était magnifique. Que d'un exploit d'huissier, on savait faire du feu. Et que du mal d'amour, on faisait des musiques. Il ne faudra jamais dire qu'on était idiot et qu'on ne savait rien, mais qu'on vivait quand même. Quand on a dégusté sa jeunesse au goulot, avec la mort qui vient, on peut faire un poème.
Ce visage est celui de mon petit garçon de 7 ans qui me demande un jour, est-ce que je pourrais arriver à voler? Mais comme je ne sais pas si c'est faisable, mais que je sais que tout est possible, je vais essayer.
Mustangs LA take one.